Vous allez entendre la rediffusion de Frontières, le magazine des masters en journalisme de l'ULB. Ce programme était diffusé en direct ce mercredi 26 février de 16h à 17h.
La frontière, c'est l'affirmation que tout ne se vaut pas, qu'entre nous et les autres, il y a une différence.
La frontière, on a autant de raisons de la redouter que de l'aimer. Moi, j'ai les deux.
This is a new dimension in sound. This is
what I want to hear already.
Passer la frontière sans encombre, retrouver ma chérie, voir l'herbe grasse sous les décombres et croire en l'avenir même quand tout est bel et bien fini.
Bonjour à tous, bienvenue dans Frontières sur Radio Campus. Frontières, c'est l'émission des étudiants en journalisme à l'ULB, votre rendez-vous du mercredi après-midi. Chaque semaine, nous explorons des frontières politiques, géographiques, linguistiques ou même culturelles, ces zones de confrontation, ces zones de tension qui agitent votre quotidien. Et aujourd'hui, nous vous parlons de la frontière entre les Français de Belgique et les Belges, n'est-ce pas Laurane ?
Oui Emmanuel, alors deux identités nationales différentes qui cohabitent et vous le savez, des clichés qui persistent. D'ailleurs, un article de Rue 89, le site d'information français, est paru la semaine dernière. Vous l'avez peut-être lu ou peut-être que le titre vous a marqué « Allez, Baraki, affonne ton péquet ». Cet article était tourné sous la forme d'un guide de Belgique pour les jeunes Français qui voudraient s'y installer. Et pour ça, le journaliste énumérait en fait une longue liste de stéréotypes sur les Belges. Et ben oui, les clichés entre Français et Belges, ça fait rire. On parle notamment du langage et des filles aux cheveux crôlés, de la guindaille ou bien des copions. Mais pourtant, ces clichés, ce sont peut-être aussi les masques rieurs d'une incompréhension, ou d'une barrière culturelle entre deux identités nationales. Cette frontière, elle mérite qu'on s'y arrête, surtout quand les Français sont de plus en plus nombreux à immigrer en Belgique. Alors, qui sont ces Français? Que viennent-ils faire en Belgique? La frontière culturelle qui les sépare des Belges est-elle souple ou bien rigide? Ces deux identités nationales sont-elles, entre guillemets, compatibles? Telles sont les questions que l'on va se poser tout au long de l'émission. Et bien sûr, on tentera d'y répondre.
Et avant d'y répondre, on passe au sommaire. Aujourd'hui, nous vous invitons d'abord chez des étudiants français de Bruxelles. Vous le savez, ils sont de plus en plus nombreux dans nos salles de classe, mais contrairement aux idées reçues, ils ne repartent pas forcément en France une fois leur diplôme obtenu. Ensuite, c'est Laurane qui nous dressera un panorama général des Français de Belgique, et puis nous aurons le passeport de la semaine, un portrait d'une jeune travailleuse française de Bruxelles. Dans la deuxième partie de notre émission, ce sera au tour de Barbara de nous rejoindre en studio. Notre journaliste a participé à un cours de néerlandais pour les Français, et elle viendra nous en parler. Ensuite, nous vous ferons écouter deux interviews, l'une de l'éditeur du magazine belge Juliette et Victor, il parle de l'image du français expatrié dans le regard des Belges, et l'autre du correspondant belge pour le quotidien Le Monde. Programme plutôt chargé en perspective, et pour y voir plus clair, nous avons deux experts avec nous en studio. Donc en face de moi, Pierre van den Dungen, vous êtes historien et enseignant à l'ULB, et puis à ma droite, bonjour. Jean-Michel Lafleur, vous êtes directeur adjoint au Centre d'études de l'ethnicité et des migrations à Liège. Bonjour à vous deux, merci de nous avoir rejoints.
Bonjour.
Alors, on commence tout de suite avec notre micro-trottoir. Laurane a rencontré des jeunes Français fraîchement arrivés ici et a récolté leurs premières impressions sur la Belgique.
En fait, en Belgique, je me sens française et en France, je me sens belge. Parce que, par rapport à ton accent, bon, quand on revient en France dans la famille, alors la belge et tout. Par contre, voilà, quand tu dis 96 ou des trucs comme ça...
C'est un peu difficile, c'est deux états d'esprit différents. Je me sens chez moi par rapport aux gens que j'ai rencontrés. Après, il y a des petites choses du quotidien qui me rappellent le fait que je ne sois, sois pas chez moi.
Bah, je passe toute l'année en Belgique, donc du coup, ouais, je commence à plus me devenir belge, on va dire. On me dit souvent d'ailleurs que j'ai l'accent belge des fois.
Maintenant, quand je prends le train, que j'arrive à Bruxelles, c'est comme si je rentrais chez moi, quoi. Alors qu'avant, ça ne me le faisait pas du tout. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir deux maisons, une maison en France, une maison en Belgique. Tant que je ne dis pas que je suis parisienne, ça va. Il y a tous les clichés, les Parisiens sont prétentieux, tout ça. Une grande majorité des Parisiens ne sont pas forcément très agréables, mais il n'y a pas que Paris en France, quoi.
J'étais pas ravie de venir parce qu'en fait je suis venue parce que j'ai raté mes concours en France, donc voilà. Mais franchement je suis vraiment bien intégrée, L'ambiance est super sympa, mais on m'avait dit de toute façon plein d'ondes positives sur la Belgique et tout, donc voilà.
Tant que je ne dis pas que je suis parisienne, ça va, on vient juste d'entendre ça. Pierre Van Den Dungel, est-ce que le français qui arrive en Belgique n'est pas déjà un petit peu prisonnier de ce cliché du parisien quand il arrive ici?
Il y a une première remarque aussi, c'est que l'identité belge, il faudrait déjà l'interroger, parce que ce que ces Français découvrent ici, ce sont des Bruxellois, semble-t-il, en majorité. Déjà, pour certains, une identité particulière, et puis surtout des Belges qui s'expriment en français. Donc là, peut-être qu'il y a une nuance à faire. Et puis pour la critique de Paris, ben ça c'est très ancien. Je veux juste vous rappeler qu'il y a de nombreuses villes de France où on pense la même chose.
En province aussi, c'est vrai. Et est-ce que les Belges sont de moins en moins francophiles à votre avis, Pierre Van Den Dungel?
Écoutez, moi, quand j'ai travaillé sur la presse au 19e siècle, ici, j'étais vraiment frappé par l'influence de la présence française, y compris même dans les directions de quotidiens. Mais j'ai distingué deux éléments, si vous me permettez. C'est souvent une francophilie qui pouvait s'accompagner d'une gallophobie, pour des raisons politiques d'ailleurs.
À votre avis, est-ce qu'il y a en Belgique une identité nationale belge telle que les Français s'y heurtent quand ils arrivent, Jean-Michel Lafleur?
Je pense que, comme l'a très bien dit mon collègue, dans la mesure où nous avons nous-mêmes des difficultés à définir ce qu'est l'identité belge, il est un peu difficile d'imposer aux étrangers de s'assimiler à un modèle que nous ne savons pas nous-mêmes définir.
C'est la belgitude. C'est cette identité, entre guillemets, en creux, en fait.
Cette hybridité, peut-être, qui définit la Belgique, et en particulier Bruxelles, hein, ce carrefour des cultures, pas uniquement entre le monde romain et germanique, mais aussi avec cette hybridité liée à l'histoire migratoire et même coloniale de la Belgique.
Est-ce que ce principe de belgitude, d'identité en creux, est-ce que c'est pas un peu compliqué pour un Français à comprendre quand il arrive ici ? Comparé à la France, qui est un pays quand même plus homogène, plus centralisé, est-ce que c'est pas un peu compliqué la Belgique pour un Français quand il arrive ici?
Mais dans les formations scolaires, dans le secondaire en Belgique, parfois l'apprentissage des institutions est une difficulté pour les jeunes Belges eux-mêmes. Hein. Oui, c'est certainement complexe. Ce côté hybride est beaucoup mis en avant pour le moment avec le côté zineke mélange, mais qui n'est pas forcément la Belgique non plus. Parmi les fondateurs du mouvement wallon, vous aviez un socialiste qui était Jules Destrée, qui était réputé aussi pour des idées moins sympathiques, notamment sur l'antisémitisme, mais qui disait « Bruxelles, c'est une ville de métèques, justement. » Il critiquait l'aspect qu'on disait déjà, donc fin 19e, cosmopolite, si vous voulez, de gens qui finalement, en cognant ces différentes cultures, n'en maîtrisaient aucune.
On a entendu dans le micro-trottoir un Français qui parlait de devenir belge. Est-ce que ça vous paraît vraisemblable de la part d'un Français, Jean-Michel Lafleur?
On peut distinguer deux éléments. Peut-être qu'au niveau identitaire, on peut capter certains éléments de belgitude, comme vous le disiez, des aspects linguistiques ou des pratiques, que ce soit culinaires ou autres. Ensuite, il y a l'acquisition de la nationalité qui fait qu'on est belge ou pas. Et là, il faut constater que les Français ne prennent pas du tout la nationalité belge en masse, puisque alors qu'ils représentent 10% des arrivées de migrants chaque année, les Français ne représentent que 2% des naturalisations. Donc ça, c'est évidemment à relier à la citoyenneté européenne qui fait que pour un citoyen, il y a un Français, il y a finalement peu d'avantages à acquérir la nationalité belge, si ce n'est éviter certains problèmes dont on parlera peut-être plus tard.
Mm-hmm. On vous emmène chez des gens qui n'ont peut-être pas encore pensé à la naturalisation. C'est la première étape de notre traversée, les étudiants français de Belgique. Donc chaque année, ils sont nombreux à passer la frontière et essaient, tant bien que mal, de s'intégrer. C'est Barbara qui nous le montre. Elle est allée à leur rencontre.
Comme des milliers de jeunes Français, Camille, étudiant en ostéopathie, a passé la frontière pour venir étudier en Belgique. Un choix qu'il explique par plusieurs raisons.
En fait, donc dans ma formation avant, j'ai déjà fait un master en France. Et donc j'aurais très bien pu m'arrêter parce que j'étais diplômé, mais j'ai souhaité justement poursuivre mes études. Et c'est vrai que j'ai porté mon choix sur la ville de Bruxelles avec la Belgique. Car tout d'abord, l'accès aux études est plus facile qu'en France, où il y a beaucoup de démarches administratives et les passerelles sont moins évidentes. Et puis de plus, La vie m'intéressait pas mal en Belgique, car c'est très vivant au niveau étudiant. Il y a quand même un melting pot de pas mal de populations. Donc du coup, c'est vrai que c'est aussi ça que je recherchais. Donc.
Des études plus accessibles, moins chères ou encore sans concours justifient en majorité cette effervescence. Aujourd'hui, les filières scientifiques sont celles qui sont les plus prisées. Mais le système du tirage au sort laisse beaucoup d'étudiants sur la touche. Ils intègrent alors une filière intermédiaire appelée Module G. Une filière qui regroupe aujourd'hui presque 80% de Français. Véronique Feipel, professeure d'anatomie à l'Université libre de Bruxelles.
Donc effectivement, dans le cadre du module général, il y a beaucoup d'étudiants français, on est bien d'accord. C'est cependant une phase limitée, donc qui ne dure que 3 ans. Après, ils seront intégrés dans une autre section avec des étudiants qui viennent un petit peu de partout. Mais c'est clair que je suis bien d'accord que ça limite certainement un petit peu cette variabilité, cette multiculturalité que l'on peut espérer finalement quand il y a des étudiants d'autres pays qui s'inscrivent dans différentes sections.
Un point de vue partagé par les étudiants.
C'est vrai qu'on a beaucoup de Français dans nos auditoires, donc on est plutôt ensemble.
Est-ce qu'on se sent vraiment mis à part ? Pas tant que ça, mais...
De toute façon, les amitiés, c'est les mêmes. Au final, ça nous fait une petite communauté ici. C'est vrai qu'on dit communauté française, quoi, du coup, un peu.
Si les bancs de la fac ne rapprochent pas obligatoirement les étudiants franco-belges, d'autres structures peuvent favoriser ce melting pot. Thibaut, étudiant en kinésithérapie à l'ULB.
Et les Belges que je connais, que je côtoie, c'est pas forcément à l'école ou à la fac, ou c'est plus au rugby, enfin avec mon sport, c'est là où je rencontre le plus de Belges en fait. À l'école, c'est énormément des Français, il y a vraiment beaucoup beaucoup de Français.
Et donc tu te sens intégré quand même ?
Ah ouais, moi je suis normalement, si tout se passe bien, je finis l'année prochaine et j'aimerais bien rester encore un an ou deux, faire peut-être une formation en plus en kiné du sport et thérapie manuelle. Parce que je te dis, maintenant j'ai ma vie ici, je suis bien ici, j'ai tous mes potes, et donc voilà.
Si étudier en Belgique et s'intégrer dans le pays ne semble donc pas être incompatible, pour ces milliers d'étudiants français, la route à emprunter n'est pas toujours sans obstacles.
Pierre Van Dendungen, vous enseignez à l'ULB, terre d'accueil privilégiée des étudiants français. Est-ce que vous observez déjà de la curiosité ou de l'intérêt de leur part vis-à-vis de l'histoire belge que vous enseignez notamment ?
Alors, en fait, jusqu'à l'année dernière, effectivement, j'ai dispensé un cours d'histoire de Belgique qui s'adresse à des étudiants journalisme, finalité journalisme, donc c'est-à-dire des gens qui vont s'occuper de ce qui se passe en Belgique, logiquement. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que les Belges eux-mêmes, les étudiants belges eux-mêmes, n'avaient souvent jamais eu aucune notion, finalement, d'histoire nationale. Alors, il y a plein de raisons à ça. C'est vrai que les universités développent plutôt des histoires comparées, voire des histoires monde. En tout cas, on ne se focalise plus sur le récit national. On est dans un contexte post-national, c'est certain. Mais néanmoins, c'était étonnant de voir, et ça a beaucoup surpris les Français dans l'auditoire, ainsi que des Luxembourgeois, je crois qu'il y avait aussi des Néerlandais, qu'il y avait cette ignorance. Et c'était d'autant plus étonnant que ces étudiants deviendront, je l'espère pour eux, journalistes, et que finalement, ils ignorent à peu près tout du matériau sur lequel ils allaient
c'est un peu...
travailler. C'est assez étonnant.
Est-ce que, en prenant en compte cette méconnaissance de vos étudiants de l'histoire belge, est-ce que vous êtes contraint d'adapter vos cours, par exemple ?
Ah, certainement. Il y a eu une adaptation qui est quand même problématique, c'est que l'importante bibliographie publiée en néerlandais, y compris pour des étudiants belges francophones, eh bien, il fallait la proposer traduite.
Monsieur Lafleur, vous enseignez aussi à Liège. Est-ce que la présence des Français là-bas est aussi remarquable qu'à Bruxelles, par exemple, dans vos classes, en tout cas ?
Alors, effectivement, à Liège, la question s'est posée de façon récurrente, surtout dans les filières vétérinaires, médecine, kinésithérapie, l'institut dans lequel moi j'enseigne, qui est l'Institut des sciences humaines et sociales. Mais effectivement, les problèmes soulignés par mon collègue sont sont des problèmes que l'on rencontre également. Et puis il y a ensuite toutes les questions administratives que cela suppose en matière d'encadrement supplémentaire qu'il faut trouver pour ces étudiants. Il y a aussi la problématique de l'avenir professionnel de ces étudiants, à savoir s'ils restent, a-t-on suffisamment de place sur le marché du travail, et si au contraire, s'ils retournent, ne va pas-t-on avoir des pénuries dans certains secteurs après le départ de ces étudiants qui ont été formés en Belgique.
Et est-ce que, au-delà de ces problèmes pratiques, administratifs ou pour l'organisation de vos cours, est-ce que vous pensez que les étudiants belges n'ont pas un peu l'impression d'être dépossédés de leurs universités quelque part par les étudiants français?
Alors, ce que l'on a pu entendre parmi certains étudiants belges, c'était qu'ils sentaient une concurrence déloyale du fait que certains étudiants français arrivent au concours, aux examens d'entrée, avec une bien meilleure préparation qu'un étudiant belge sortant de secondaire. Donc, sur cette base, effectivement, il peut se développer un ressentiment à l'égard des étudiants français. Bon, à ma connaissance, ça n'a pas encore donné lieu à des actes de discrimination ou de racisme à l'égard d'étudiants français, mais c'est clair que c'est une préoccupation qu'ont entendu, je pense, les recteurs des universités francophones et je pense aussi les autorités de la communauté Wallonie-Bruxelles. Donc, je crois que la problématique est véritablement prise au sérieux par les autorités. Et donc, à ce niveau-là, je crois qu'il ne faut pas se cacher non plus la face, il ne faut pas se voiler la face. La mobilité étudiante est un objectif au sein de l'Union européenne que l'on... On peut prendre différentes mesures pour éviter certains aspects négatifs, mais cette mobilité est une tendance lourde, elle va continuer et vraisemblablement elle va s'accélérer. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'ULB tout comme à l'ULG, nous encourageons nous-mêmes nos étudiants à partir à l'étranger, à étudier, et notamment en France. Et
pour ces Français, on entend très souvent qu'ils repartent immédiatement après avoir obtenu leur diplôme. Ça vous paraît être un cliché ou non ça ?
On n'a pas effectivement de données chiffrées à cet égard, mais je pense que c'est réducteur, puisque selon les opportunités qui peuvent se présenter aux étudiants aujourd'hui, je pense qu'une des personnes que vous avez interviewées le signalait très clairement, dès lors qu'ils ont été formés ici, qu'ils ont créé des réseaux sociaux, qu'ils ont des contacts ici, qu'ils s'y plaisent, pourquoi rentrer s'ils ont un job.
Très bien, première étape, on passe au panorama de la semaine avec Laurane.
Panorama.
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 Alors, Laurane, tu vas nous éclairer sur les immigrés de Belgique et bien sûr sur les Français. Alors, première question, quels sont les étrangers les plus nombreux à venir s'installer ici ?
Alors, en Belgique, on compte aujourd'hui 11 millions d'habitants et plus d'un million ont une autre nationalité. Alors, ce sont les Italiens en premier lieu, suivis de près par les Français. Et ça tombe bien parce que justement, ça rentre dans le sujet de notre émission. 165 000 Français vivent dans notre petit pays, selon une étude de la Direction Générale Statistique. Et c'est un peu plus de 13% de la population totale de la Belgique. Alors, ces chiffres datent de 2011. Cette année-là, il y a 3 ans, donc, le registre belge a enregistré une hausse de 8,1% d'inscrits venant de France. La Belgique est donc considérée comme une terre d'accueil pour les Français et surtout pour les étudiants. Par exemple, l'Université de Liège est considérée, et c'est paradoxal, comme la plus grande école vétérinaire de France.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils viennent étudier ici ?
Eh bien, c'est principalement à cause des concours d'entrée, en fait. Ils ont lieu chaque année et ils ne sont pas faciles, les places sont limitées. Du coup, les étudiants bénéficient d'un accès plus facile dans d'autres pays où l'admission se fait par dossier, comme en Belgique. Du coup, à Mons, par exemple, une ville du Hainaut située près de la frontière, 50% des étudiants inscrits en première année viennent de France.
Et quels sont les cursus les plus prisés dans ce cas ?
Eh bien, ce sont les médecins, les kinés, les infirmiers, donc tout ce qui est dans le secteur paramédical. C'est donc des milliers d'étudiants qui s'inscrivent massivement dans ces options. Et du coup, ça pose quelques problèmes au niveau du suivi qui concerne la pratique et notamment les accompagnements pendant les stages. Et les professeurs craignent une baisse dans la qualité d'apprentissage. Donc suite à ça, les autorités ont d'ailleurs dû prendre des mesures. Désormais, seuls 30% des étudiants ne résidant pas depuis 3 ans en Belgique seront autorisés dans les filières paramédicales. Cette nouvelle mesure vise à limiter l'afflux d'étudiants français qui atteint parfois un nombre colossal. Du coup, par exemple, à la rentrée scolaire précédente, 80% des étudiants inscrits en première année de logopédie à Marie-Apps, à l'Institut, voilà, c'était des Français. Du coup, de nombreux professeurs précise qu'ils n'ont aucun problème avec les Français, ils veulent plutôt laisser la place aux étudiants belges. Alors tous ces chiffres, ça donne une impression d'immigration massive des Français en Belgique. Il faut donc préciser que comparativement aux pays comme la France ou l'Allemagne, l'immigration étudiante est relativement faible, puisque c'est seulement 8,4% d'immigrés étudiants. Au niveau de l'immigration pour raison de travail, on atteint seulement 6%, alors qu'aux Pays-Bas, par exemple, on approche les 20% d'immigrés. Mais les motifs d'immigration, de manière générale, varient fortement, surtout selon les nationalités. Donc, de manière générale, on peut dire que l'immigration en Belgique est faible par rapport à nos voisins. Et pour revenir aux étudiants français qui viennent en Belgique, bien entendu, tous ne repartent pas après leurs études. Certains tombent amoureux de la Belgique ou tout simplement d'un Belge. Comme quoi, parfois, le vin rouge se marie bien aux frites mayonnaise. Hein.
Merci, Lauranne. Nouvelle étape de notre voyage entre deux cultures, c'est le passeport de la semaine.
Attention, ne souriez pas.
Passeport.
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 Attendez quelques instants. Vos photos seront bientôt disponibles.
Notre passeport, c'est un portrait d'une personnalité qui illustre une frontière que nous explorons. Et cette semaine, Barbara a rencontré une jeune Française, journaliste, qui a élu domicile en Belgique. Et pour elle, devenir belge, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air.
En mitouflé dans son manteau noir, un parapluie à la main, Sophie Poisson pousse la porte de son bar favori, le Pantin. Un petit bar convivial situé aux abords de la place Flaget. Après avoir effectué un master en journalisme à l'Université Libre de Bruxelles, à 26 ans, la jeune Française travaille aujourd'hui comme journaliste indépendante en Belgique. Une tasse de café entre les mains, Sophie nous raconte son parcours.
Je suis arrivée en Belgique, en fait, j'étais en troisième année de licence à l'Université de Savoie. Et en fait, on avait un stage à réaliser obligatoirement à l'étranger, un stage de 3 mois. C'est pourquoi je suis arrivée, j'ai commencé un stage de 3 mois au Vif l'Express. Et le côté cosmopolite de Bruxelles m'a beaucoup plu, m'a beaucoup séduite et m'a donné surtout envie de rester. Alors je ne m'étais pas tout de suite rendu compte de ce que ça pouvait engendrer, c'est-à-dire perdre notamment les aides de l'État, devoir m'inscrire à la commune en Belgique, toutes ces démarches finalement administratives.
Finalement, ces valises se sont posées un peu plus longtemps que prévu en Belgique. Une situation qui la pousse à nous parler de son identité franco-belge.
Ça va faire bientôt 6 ans. Je suis à Bruxelles, donc ça fait un petit temps. J'ai eu le temps effectivement d'attraper un peu l'accent, les expressions. Et en même temps, il y a certains mots que je n'arrive pas à perdre. Une serviette, ça restera une serviette, ça ne sera pas un essuie. Je cherche toujours une boulangerie, une bonne boulangerie, une bonne pâtisserie française à Bruxelles. C'est quelque chose qui me manque.
Contrairement aux idées reçues, Sophie ne pense pas que vivre à l'étranger risque de lui faire oublier sa propre culture.
Finalement, c'est un peu comme en Erasmus. Dernièrement, il y a eu tout un projet pour défendre le programme Erasmus et puis pour l'élargir à un maximum encore de jeunes. Et beaucoup de craintes qui étaient données à ce moment-là, c'était de dire « oui, mais alors notre identité, on va la perdre. À force de vouloir voyager, à force de vouloir travailler à l'étranger, il ne va plus y avoir d'identité nationale. » Et bien moi, je trouve que j'ai jamais été autant française que depuis que je vis à l'étranger. Et c'est encore un plus grand plaisir de rentrer en France. On redécouvre chez soi. Quand j'étais jeune, je n'aimais pas spécialement skier. Maintenant, je payerai cher pour aller skier, ouais.
Jean-Michel Lafleur, les Français de Belgique, est-ce que c'est une petite enclave franco-française ou est-ce qu'à votre avis, ils s'intègrent vraiment dans la société belge ?
Oh bon, je pense que c'est difficile de généraliser, évidemment. Il y a l'aspect linguistique qui fait que l'intégration des Français de Belgique en Belgique francophone est plus aisée. Bon, ça c'est assez évident. Mais je crois qu'il est nécessaire de peut-être intégrer une dimension un peu plus complexe, c'est que c'est peut-être pas la nationalité qui fait qu'on peut s'intégrer facilement ou adéquatement en Belgique ou non, c'est peut-être simplement ses pratiques. On peut se poser la question de savoir si un milliardaire français ou un exilé fiscal français est mieux intégré qu'un étudiant français qui vient s'installer en Belgique. Qu'est-ce qui définit l'intégration ? Est-ce que ce sont les interactions avec le groupe majoritaire ? Mais qui est le groupe majoritaire à Bruxelles ? Donc finalement, c'est difficile de parler de ces notions d'intégration, mais je crois que malgré tout, les Français ont cet avantage linguistique qui fait que ils passent vraisemblablement plus inaperçus que d'autres groupes à Bruxelles ou ailleurs en communauté française.
Et non seulement d'un point de vue linguistique, les immigrés français arrivent dans leur zone de confort linguistique, mais la journaliste qu'on vient d'entendre, les différences culturelles qu'elle a énumérées, c'est complètement anecdotique. C'est des petites différences de langage, c'est la boulangerie, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a finalement pas suffisamment de différence entre les Belges et les Français est-ce que ça ne suscite pas finalement assez d'intérêt du fait de ce manque de différence?
C'est peut-être plus compliqué que ça, dans le sens où finalement, si je comprends bien, la supposée attractivité, elle est basée sur la langue finalement. Or ici, alors de nouveau, retournons-nous vers nous-mêmes. On appelle aujourd'hui notre ensemble communauté Wallonie-Bruxelles, mais enfin officiellement c'est communauté française, parce qu'il faut une reconnaissance au plus haut pour que ces valeurs légales. Or, il y a un mouvement wallon, ou en tout cas il y a une appartenance wallonne, qui craint justement, en se faisant appeler francophone, voire communauté française. Ceci dit, c'est une petite anecdote, mais qui n'est pas si une digression que cela. Quand François Mitterrand est venu ici, qu'on lui dit « il y a près de 4 millions, elle se compose de près de 4 millions de personnes, la communauté française ». Quoi ? Autant de gens ? Évidemment, on lui avait perçu ça comme une présence française chiffrée de cet ordre-là. Et tous les termes sont très intéressants. Les définitions, si vous me permettez de regarder dans une autre discipline qui sont les lettres, c'est extraordinaire de voir combien certains ont défendu bec et ongle l'existence d'une littérature française de Belgique, l'existence d'une littérature belge d'expression française, l'existence d'une littérature belge, bon, etc. Et donc je crois qu'ici, le rapport à la langue, parce que finalement ces petites anecdotes dont parlait cette journaliste, qui me semblent effectivement assez peu importantes, c'est de ça dont on parle, ça cache plein d'autres choses, mais le problème ici encore, c'est qu'au niveau de l'identité de soi, nous, ici, il y a effectivement des différences d'affirmation entre Bruxellois et Wallons.
Très bien, bon, on marque une courte pause en musique, nous vous retrouvons juste après pour la deuxième partie de cette émission.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris, et puis elle me soupçonne d'être avec toi. Le soir, je reconnais, c'est vrai, tous les soirs, dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare du midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnue? Les néons, les léons, les noms de Dieu, sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la. Celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti, qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, combattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends ma dérive. Paris, je te laisse mon lit.
Vous êtes toujours dans Frontières, l'émission des étudiants en journalisme de l'ULB. Pour ceux qui nous rejoignent, nous plongeons aujourd'hui dans les barrières culturelles entre les Français de Belgique et les Belges. Et pour ça, nous sommes avec Pierre van den Dungen, historien à l'ULB, et Jean-Michel Lafleur, du Centre d'études de l'ethnicité et des migrations à Liège. On reprend tout de suite notre voyage avec la rubrique « Les passeurs ». Chaque semaine pour les passeurs, nous nous invitons dans votre quotidien. Pour aujourd'hui, c'est Barbara qui s'en est chargée. Elle assistait à un cours de néerlandais pour les Français. Salut Barbara.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ils se déroulent ces cours ?
Alors, effectivement Manu, je suis allée cette semaine tester pour vous donc un cours de néerlandais. Bon, pour les débutants bien sûr. Alors pour moi, c'était une première. Je n'avais jamais pris de cours de néerlandais, donc c'est vrai que ça n'a pas été facile de comprendre. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le principe de l'école dans laquelle je me suis rendue au centre de Bruxelles. Pour vous fassiez un peu une idée, car c'est vrai que c'est une méthode d'apprentissage que j'ai trouvée plutôt attractive. Donc en effet, ici, on est loin du cliché du professeur qui écrit au tableau et des élèves qui écoutent sans un bruit, puisqu'au contraire, l'apprentissage de la langue, il est majoritairement basé sur l'oral. Donc on a commencé le cours par des exercices de reconnaissance d'images. En fait, le but, c'était d'associer une image au mot qui lui correspondait. On a également joué au jeu du numéro de téléphone. Alors en quoi ça consiste ? Eh bien, c'est simple, chacun se voit attribuer un numéro de téléphone et le but est de retrouver le partenaire à qui il correspond. Donc on se déplace à travers la pièce en épelant notre numéro aux autres élèves, en néerlandais bien sûr, donc c'était un exercice plutôt amusant. Enfin, on a terminé par le jeu de la bande dessinée. Donc ici, il fallait associer des images à un jour de la semaine et à une action, afin de trouver une histoire qui tienne la route. Donc, je vous laisse imaginer les tournures que ça pouvait prendre. En tout cas, le cliché des femmes qui font le ménage et la cuisine le samedi n'a pas été épargné. Donc voilà, c'est un petit résumé du cours. Ce type de leçon, ça a une durée moyenne de 3h30. C'est vrai qu'au début, ça m'a fait un petit peu peur, parce que ça me semblait vraiment long. Et puis, contre toute attente, eh bien, je n'ai pas vu le temps passer.
Quel type de personnes tu y as rencontré ? Pourquoi ils y viennent ?
Alors déjà, il y a environ 25 élèves par classe et la moyenne d'âge, elle s'articule entre 37 et 37 ans à peu près. Après, évidemment, il y a des personnes plus âgées. Donc si c'est vrai que la majorité prend des cours pour pouvoir trouver du travail plus facilement ou parce que les actifs, donc ils sont obligés dans le cadre de leur travail, c'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, certains habitent en Belgique depuis de nombreuses années et ont tout simplement marre, de ne pas parler les deux langues officielles du pays. Pour d'autres, c'est juste un loisir. Et enfin, il y a les plus romantiques qui ont un partenaire flamand et qui sont obligés donc de s'y mettre afin de pouvoir mieux comprendre leur moitié. Donc, la situation des élèves, elle est plutôt hétérogène.
Mais alors toi, qu'est-ce que t'en as retenu de ce cours ?
Bon, je ne suis certes toujours pas une experte, mais j'ai au moins quelques notions que je n'avais pas du tout avant.
Il faut préciser que tu es française. Hein.
C'est ça. J'ai très vite remarqué d'ailleurs la similitude avec l'anglais. J'ai d'ailleurs noté que beaucoup de mots en néerlandais remplacent le F par un V. Le mot fort devient alors voor, le mot football devient voetbal, ou father devient vader, etc. Et d'ailleurs, voilà, j'ai quand même retenu 2-3 termes, donc justement, je trouvais ça assez sympa d'essayer de te les faire deviner, comme je sais que tu es français aussi.
Vas-y.
Donc, hallo, hoe gaat uw métier ? Qu'est-ce que ça signifie ?
Pierre van den Dungen, vous pouvez plus
là. C'est attention à la prononciation quand même, donc comment allez-vous ? Mais ça ne prononce pas tout à fait comme ça,
j'ai
mais c'est
pas
grave,
encore
c'est une première leçon.
On va t'inscrire.
Allez, j'en ai quand même 2-3 pour le plaisir. Donc, dankjewel.
Merci beaucoup.
Ouais, bah voilà, t'es plus fort que moi. Hein. Donc, un petit dernier pour la route. Tot ziens.
Monsieur Lafleur, peut-être ?
À bientôt.
À bientôt, c'est ça ?
C'est ça, au revoir, ouais. Donc, pour conclure, donc, je dois quand même dire que j'ai été agréablement surprise par cette petite expérience. Parce que j'y suis allée un petit peu en traînant les pieds et finalement, je me suis laissée prendre au jeu. Et je tiens quand même à souligner que si vous n'avez pas encore commencé le néerlandais et que vous souhaitez rester en Belgique, je vous conseille quand même de vous y mettre rapidement, car c'est vrai que c'est de plus en plus demandé pour trouver du travail. Et croyez-en ma petite expérience, l'apprentissage du néerlandais est loin d'être une chose facile.
Merci Barbara. Jean-Michel Lafleur, pour les Français de Belgique, est-ce que c'est une étape nécessaire, l'apprentissage du néerlandais ?
Bon, je pense que pour bon nombre de travailleurs en Belgique, c'est nécessaire, voire indispensable. Donc, dès lors que on veut faire des progrès dans une carrière professionnelle, particulièrement à Bruxelles, pour les Français comme pour les Belges ou les autres, c'est un atout supplémentaire dans leur jeu.
Faire apprendre le néerlandais aux immigrés en Belgique, c'est aussi un enjeu politique. Est-ce que ça occupe une place importante dans la politique d'intégration belge ?
Oui, tout d'abord, il faut signaler qu'il n'y a pas de politique d'intégration belge. Donc, il y a une politique d'intégration flamande qui, effectivement, met l'accent très fortement sur l'apprentissage du néerlandais. Ceux d'entre vous qui prennent le tram régulièrement ont vu sans doute les annonces invitant les étrangers à suivre des cours... comment dire en français, de citoyennisation, peut-être, donc inburgering, donc comment faire des étrangers de bons citoyens belges flamands. Donc la Flandre a mis l'accent sur l'apprentissage de la langue comme moyen d'intégration des étrangers dans la société, et je pense que les chiffres que je n'ai pas en tête sont plutôt bons en ce sens, qu'il y a un nombre croissant d'étrangers qui suivent ces cours.
C'est-à-dire que ça peut être vu aussi comme un élément de contrainte, c'est un contrat, c'est-à-dire qu'il en va aussi de la survie finalement d'une partie de ce pays dont certains et un certain nombre d'habitants se considèrent quasiment comme une nation à part entière, ou en tout cas un élément de plus en plus souverain, et où en fait l'élément distinguant est principalement cette langue qui génère une culture. Et donc si cette langue disparaît, ce qui est clairement un peu le cas des habitants à Bruxelles, pas des travailleurs bien entendu, mais des habitants, ben, c'est clair qu'alors à ce moment-là, et je ne suis pas du tout polémique en disant ça, je peux prendre un exemple avec le Québec, il y a des lois qui font qu'on va, entre guillemets, imposer ou rendre indispensable l'apprentissage, qu'il est de toute façon d'autant plus que je vous rappelle quand même qu'il y a plus de 65% des gens de ce pays dont la langue maternelle est... le néerlandais. Hein.
Alors, certains immigrés essaient de passer cette barrière de la langue, en tout cas du néerlandais, et pourtant, en Belgique, rester immergé dans la culture française lorsqu'on est français, c'est encore possible, c'est même tout à fait possible. Il y a notamment une presse belge spécialisée à l'attention des Français expatriés. Camille a rencontré l'éditeur de Juliette et Victor, un magazine assez particulier, n'est-ce pas Camille ?
Oui, Emmanuel. Alors, Juliette et Victor, c'est un magazine qui met à l'honneur l'art de vivre franco-belge. C'est du moins ce que dit son sous-titre. J'ai donc rencontré Alain Lefebvre, l'éditeur de JV. Je l'ai rencontré mercredi dernier dans les bureaux de la rédaction, en plein cœur du Châtelain et à quelques pas d'un marché très apprécié par les Français de Bruxelles. Alain Lefebvre lui-même y va chaque semaine. Parisien depuis 6 générations, il a posé ses valises à Bruxelles il y a une dizaine d'années et revient sur ses premières impressions quand il est arrivé en Belgique.
Très vite, j'ai constaté que la Belgique n'était pas la France, contrairement à ce que les Français pensent quand ils arrivent. C'est-à-dire que le Français, comme vous le savez, est assez arrogant, sûr de lui, dominateur et assez méprisant à l'égard des autres peuples du monde. Et donc, il arrive toujours en terrain conquis, a fortiori quand c'est de l'autre côté d'une frontière assez facile à franchir. Et là, il est très surpris. Tous les autres étrangers qui arrivent à Bruxelles, tous ces gens-là se préparent à aller dans un pays étranger. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne vont pas parler la même langue, que les mœurs seront différentes, que le Français ne se prépare pas à ça, parce qu'il s'imagine qu'il est en France et que ce n'est qu'un département, voire une région française.
Est-ce que pour votre magazine, vous avez la volonté d'embaucher des journalistes français et belges ?
Au tout départ du magazine, lorsqu'on l'a lancé en 2007, on avait deux co-rédactrices en chef, et l'une était française et l'autre belge. On a la volonté de panacher et d'avoir effectivement à la fois la culture de la vie locale qui permet de ne pas dire de bêtises quand même sur le pays, c'est important, et puis notre appréhension de français, notre vision de français, notre regard de français sur le pays, qui plaît beaucoup aux Belges. D'ailleurs, on a aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pensait au départ, on a 50% de nos lecteurs qui sont des Belges. C'est-à-dire qu'en fait, ce magazine est fait pour les Français. Sa ligne éditoriale n'a pas varié d'un pouce depuis le premier numéro. C'est-à-dire qu'on fait toujours le magazine des Français qui vivent en Belgique. Mais la moitié de nos lecteurs sont belges parce qu'ils aiment notre façon de regarder leur pays.
Est-ce qu'il y a une anecdote révélatrice de ce regard français que vous portez sur la Belgique ?
Il y a un événement à Bruxelles qui s'appelle l'Homme Gang. Et l'Homme Gang est une grande manifestation de théâtre vivant dans la rue qui raconte l'histoire de la Belgique avant qu'elle ne soit la Belgique. Et on a trouvé ça absolument somptueux. Et le lendemain, donc, on s'en est ouvert à cette jeune femme. Elle nous a dit, mais enfin, l'Homme Gang, c'est totalement ringard, c'est ridicule, c'est des trucs pour touristes, etc. On a porté un regard intéressé sur des choses qu'ils voient tous les jours et qui finalement... ne les intéresse plus parce qu'ils se disent que finalement ça fait partie de leur vie quotidienne.
Le français arrogant et sûr de lui, il arrive toujours en pays conquis. On vient juste d'entendre ça. Pierre Van den Hugen, est-ce que c'est une vieille caricature du passé ou est-ce que ça vous semble encore d'actualité ?
C'est difficile de donner des réponses sur des éléments qui sont quand même largement basés sur des impressions. Mais disons que je trouvais au contraire que depuis une quinzaine d'années, il y avait une espèce de principe de réalité qui était apparu par rapport à ce discours, et qu'il y a plutôt un discours du déclin, justement, de la France, qui est assez fréquent dans la presse française, d'ailleurs, qu'on trouve très facilement ici, effectivement, par tradition. Ce qui, sans doute, pour des expats, rend encore plus courte la distance avec leur maison. Il y a effectivement la possibilité, sans aucune difficulté, de trouver chez tout marchand cette presse, notamment, oui. Et ces chaînes de télé, dont je vous rappelle qu'en communauté Wallonie-Bruxelles, après RTL, TF1 est souvent devant la chaîne de la communauté.
Oui, justement, ça, on en reparlera. Vous parlez de déclin. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a des ressources culturelles suffisantes pour que les Français immigrés puissent imposer quelque part, ou du moins importer leur culture en Belgique ?
C'est très difficile de répondre à ça, parce que finalement, il y a à la fois une nécessité économique, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'éléments de rapport parce que c'était la même langue, bien sûr, je parle en termes de, que ce soit des journalistes ou des créateurs, cet attrait, alors spécifiquement pour le centre d'affaires culturel que reste Paris malgré tout, bien entendu, ça crée une attractivité qui est à la fois dans le sentiment sans doute, mais aussi tout simplement dans l'importance d'y passer, voire de s'y installer pour réussir, tout simplement, pour vivre. Bon, ce sont des cas spécifiques. Après ça, une influence, sans doute qu'il y a aussi dans ce regard du côté francophone, plus de regard vers ce qui se fait en France, et en tout cas plus, très certainement, que du côté néerlandophone. Ce qui fait qu'au final, il n'est pas faux de dire que finalement, peut-être que beaucoup de Belges connaissent plus ce qui se passe en France que ce qui se passe en Flandre.
Très bien, maintenant on va traverser la frontière, mais dans l'autre sens. Cette fois-ci, Camille a rencontré le correspondant belge pour le quotidien Le Monde, Jean-Pierre Strobans.
Effectivement, alors on est toujours un peu impressionné quand on rencontre un grand nom du journalisme. Jean-Pierre Strobans a été rédacteur en chef adjoint du Soir avant d'être embauché comme correspondant du Monde pour les pays du Benelux. Ce qui était intéressant pour notre émission, Emmanuel, c'était de comprendre comment un journaliste de nationalité belge décrypte l'actualité de son pays pour un public étranger, le public français en l'occurrence. Donc Jean-Pierre Strobans a commencé par m'expliquer comment il choisissait ses sujets.
Il faut tenter de repérer ce qui, dans l'actualité belge, est susceptible d'intéresser le public français. Il faut être capable de faire le tri, de se dire, mais pour un lecteur français qui est très éloigné de tout ça, que veut dire une crise politique de 540 jours? Que veut dire l'arrivée à la tête de ce pays d'un Premier ministre issu d'une communauté minoritaire et d'un parti rejeté par la majorité de l'opinion flamande? Sur tous ces sujets-là, la nécessité, encore une fois, de repérer ce qui veut dire quelque chose. Il y a tout un pan, en tout cas, de cette actualité que j'ai décidé une fois pour toutes de ne pas couvrir, parce que je pense qu'elle est souvent totalement incompréhensible pour les Belges eux-mêmes.
Est-ce qu'il y a eu récemment une évolution de l'intérêt des Français pour ce qui se passait en Belgique ?
Cette fameuse crise politique 2010-2012, évidemment, qui a rendu les Belges célèbres dans le monde entier, pas seulement en France. Là, je veux dire, il y avait un intérêt, il y avait parfois plus d'intérêt à Paris que je n'en avais moi-même. Pour cette situation, on voulait absolument comprendre, expliquer. Je pense que la Belgique a du coup acquis d'ailleurs peut-être un excès de notoriété à ce moment-là. C'est-à-dire que tout le monde voulait comprendre 150 ans d'histoire, 160 ans d'histoire, et que ça devenait assez compliqué à exposer. Il faut quand même se dire qu'ici, même pendant ces 500 jours, vous sortiez dans la rue, vous demandez aux Belges, et alors cette crise, je ne peux pas vous dire, écoutez, je m'en fous. Quoi. Donc, Il y a eu comme ça un effet de loupe, il y a eu un intérêt pour plein de choses qui se passaient en Belgique. Il n'y a jamais eu autant de papiers depuis lors sur la formidable cuisine belge, comme si elle était née en 2010, sur les extraordinaires acteurs belges qui existaient avant 2010, sur la mode belge, sur la beauté des villes belges, qui selon moi est quand même souvent assez relatif, sauf certaines d'entre elles. Mais bon, voilà, il y a un phénomène médiatico-politique qui a fait en sorte que, oui, tiens, la Belgique aujourd'hui, c'est quand même épatant, extraordinaire.
Est-ce que la frontière entre la France et la Belgique est plus grande, d'après vous, que la frontière entre la Wallonie et la Flandre ?
Je pense que pour un francophone belge, wallon ou bruxellois, bon, la France est évidemment une espèce de prolongement naturel de son petit territoire. J'ai jamais eu le sentiment, quand on allait en France ou quand j'étais en France et que je revenais en Belgique, que la frontière existait. Or, à l'époque, l'espace Schengen, l'espace sans frontières, ça n'existait pas. Il y avait des postes frontières avec des messieurs avec des képis, mais j'ai jamais eu le sentiment d'entrer dans un autre pays. Et si j'avais le sentiment, il était très positif parce que c'était dans ce pays-là qu'on partait en vacances, la France. Je veux dire. Par contre, combien de Wallons connaissent la Flandre, vont en Flandre? Très peu.
On termine maintenant avec, par une note de douceur. Lorraine s'est invitée chez un couple au cœur de notre frontière, franco-belge, vous vous en doutez.
Nous sommes connus en avion entre Tunis et Palerme. Je partais en vacances avec mes parents, lui revenait en Afrique, d'Afrique pour son premier congé. On a sympathisé et ben voilà, ça s'est transformé de sympathie en amour et ça fait 62 ans.
Michèle est française et quand elle se présente, elle précise bien qu'elle a 79 ans. Son mari André est belge et a 87 ans. Ensemble, ils ont vécu 30 ans dans le Midi avant de venir s'installer en Belgique. Et pour Michèle, c'était le coup de foudre.
J'ai découvert Bruxelles, mon mari m'a montré sa ville et son pays et ça m'avait plu tout de suite. Tout de suite, ça m'a plu. Et en plus, je suis amoureuse de la Grand Place de Bruxelles. Là, vraiment, c'est mon grand amour, ça. On est bien ici.
Pourtant, après 30 années passées en France, André s'était habitué à son pays d'accueil et en garde une certaine nostalgie.
Je suis très attaché à la langue française, aux habitudes françaises, à la cuisine française, mais enfin, pas nécessairement, mais à beaucoup de choses qui touchent à la France.
La France et ses bonnes choses, mais le couple s'accorde surtout sur la gentillesse des Belges.
Il y a quelques différences de mentalité, bien sûr. On était dans le Midi de la France, et là, c'est pas toujours très évident. Les gens vous font des beaux sourires, mais on ne vous reçoit pas. Tandis que la Belgique est beaucoup plus ouverte.
Et pour vous ?
Le Belge est plus accueillant, plus ouvert, plus hospitalier que le Français.
Ces nouveaux Bruxellois se sentent bien en Belgique, mais tentent toutefois de garder un pied dans le pays voisin.
On lit des revues françaises, on est plus ce côté-là, plus côté France que côté Belgique. Figaro, Figaro Madame et Figaro Magazine.
Le Point.
Juliette et Victor, c'est belge, mais c'est mixte. C'est un tort, parce qu'on n'est souvent pas au courant de tas de choses qui se passent en Belgique. Je l'avoue.
Michèle et André se complètent par leurs différences de culture, même si certaines habitudes sont encore bien présentes.
Et donc finalement, est-ce que vous fêtez le 14 ou le 21 juillet ?
14. 14 juillet.
Et vous, monsieur ?
La fête nationale, ça ne me préoccupe pas du tout pour la Belgique. Et pour la France, c'est plutôt le décor imposant de la fête du 14 juillet, mais c'est tout, ça se limite à ça.
Si une Française a été conquise par notre petit pays, c'est surtout le cœur d'un Belge qui a traversé la frontière.
Voilà, c'était un reportage de Lorane. Je voudrais qu'on revienne, avant de nous quitter, sur notamment le traitement médiatique du français immigré. Dans le discours médiatique, le français, c'est presque toujours un expatrié. C'est très rarement, en tout cas, il est très rarement qualifié d'immigré. Comment est-ce que vous pourriez nous expliquer ça, monsieur Lafleur ?
L'usage du concept d'expatrié pour qualifier des migrants français ou des Belges ou des Américains, bon, c'est traditionnellement un usage médiatique pour distinguer le migrant issu d'un pays, disons de l'OCDE, on va dire un pays riche pour faire un raccourci, du migrant qui vient des pays du Sud. Donc en fait, c'est souvent aussi une volonté des personnes elles-mêmes de se distinguer de d'autres migrants qu'ils perçoivent, eux, comme moins désirables pour le pays d'accueil. Mais je pense que cette réalité est changeante et que ces termes doivent être revus, évidemment, sur base régulière. Il ne faut pas oublier que, dans le cas des Français aujourd'hui, il y a une population précaire qu'on peut mesurer, puisqu'on sait qu'il y a environ 2000 Français qui reçoivent une aide du CPAS en Belgique, qu'il y a des Français qui, aujourd'hui, se font expulser de Belgique parce qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins.
Retirer leur titre de...
Oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas physiquement reconduits à la frontière, mais c'est-à-dire qu'on leur retire leur permis de séjour, mais pour la simple raison qu'ils ont fait appel à l'aide sociale en Belgique. Donc, parler simplement d'expatriés pour si c'est pour faire croire qu'on a une migration 5 étoiles, je pense que c'est pas tout à fait la réalité.
Est-ce que, dernière question, est-ce que les Belges francophones se sentent plus proches des Français ou des Flamands culturellement ?
Je pense que par le fait de la langue, peut-être qu'il y a très peu de Belges francophones qui parlent le néerlandais, par la force des choses, finalement, c'est peut-être pas tellement d'être plus près des Français que d'être loin des Flamands. C'est ça le souci, si vous voulez. D'où une identité nationale. C'est ça que les Français, pays avec un scrutin majoritaire, pays avec une langue nationale, ont du mal à comprendre. Ici, chez nous, il y a 3 langues nationales.
Très bien, merci à vous deux messieurs, on doit se quitter. Merci d'être venus déjà, et puis merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous vous retrouvons mercredi prochain pour explorer la frontière entre les anciens détenus et les gens qui n'ont jamais fait de prison, au programme des clichés quasi indémodables et les enjeux de la réinsertion. En attendant, on vous souhaite tous une excellente semaine.
Entendre la rediffusion de Frontières, le magazine des masters en journalisme de l'ULB. Ce programme était diffusé en direct ce mercredi 26 février de 16h à 17h.
Les infos. On dit les infos et pas les infos. Parce qu'à Namur, on fait du vélo et pas du vélo. Ouais, on dit du vélo. C'est juste le O, hein. Mais c'est vraiment fou. Hein. Le O, nous on dit O. Parce qu'on écrit O, donc on le dit O. Si on veut dire O, on dit A-U. Quand c'est A-U, on dit O. Donc c'est nous qui avons raison.
Joli, Fredo. Et à propos, notre son O, ce gardeau chaud. Imaginez l'info radio sans lettre O. Je sens pas l'eau. Il n'y a plus de studio, plus de micro, il n'y a même plus de mots. Alors écoutez Radio Campus. Oh, c'est beau.